Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 26 janvier 2022, en direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Eric Maniraki.
Pour commencer, les titres.
Dans quelques instants, le journal de la Cannes d'Emmanuel Junta.
Le coup d'état militaire au Burkina Faso a été largement condamné hier par la communauté internationale.
9 soldats sénégalais de la mission ouest-africaine en Gambie portés disparus. Après des affrontements mortels avec des rebelles casamancés présumés.
Au Maroc, 3 enfants d'une migrante nigériane meurent asphyxiés puis calcinés lors de l'incendie de leur abri de fortune.
Le président américain Joe Biden n'a pas l'intention d'envoyer des troupes américaines ou de l'OTAN en Ukraine.
Le risque global lié à Omicron, toujours très élevé, avertit l'OMS. Le journal maintenant.
La hiérarchie a été respectée hier lors des 2 matchs des 8e de finale disputés à Bafoussam et à Yaoundé. Le Sénégal et le Maroc se sont qualifiés pour les quarts de finale en venant à bout de leurs adversaires respectifs, le Cap-Vert et le Malawi. Le tableau des quarts de finale a affiché complet ce mardi de Yaoundé pour le journal de la Cannes, Emmanuel Juntap. Bonjour Emmanuel.
Bonjour. Sans briller, le Sénégal file en quart de finale en s'imposant sur le score de 2-0 face à une équipe du Cap-Vert réduite à 9. Le derby des voisins d'Afrique de l'Ouest s'est disputé à Bafoussam sous le regard d'Amédine Sy.
Au début du match, les poulains d'Alucissé mettent la pression et monopolisent le ballon. Ils multiplient les corners mais sans pour autant trouver la faille. Mais la rencontre bascule alors à la 18e minute, d'abord avertie par un carton jaune pour une vilaine semaine sur la cheville de Pape Andrade et comme finalement d'un carton rouge. Le Cap-Vert est réduit à 10, mais tient bon. Le Sénégal continue de presser, mais au fur et à mesure des minutes, le jeu baisse en intensité. Les Requins Bleus resserrent leurs lignes et jouent clairement les contres. À la 39e minute, Sadio Mané s'offre une nouvelle belle occasion après une bonne combinaison avec Idrissa Gana Gueye. Il s'engouffre dans la surface de réparation mais est stoppé incapablement par un tacle de Fortes. Les deux équipes vont rejoindre les vestiaires sur le score de parité 0 but partout. À la reprise, le match bascule alors une seconde fois sur un gros choc entre Sadio Mané et le gardien de but du Cap-Vert, Bosiga, après un dégagement lointain de Mendy. C'était à la 53e minute. Les deux joueurs sont complètement sonnés. Le portier des Requins Bleus est finalement sanctionné d'un carton rouge. Les Cap-Verdiens ne sont plus que 9 sur le terrain. Le Sénégal en profite alors pour mettre le turbo. Le Cap-Vert finira par craquer sur corner. Sadio Mané, toujours lui, récupère le ballon dans la surface et enroule parfaitement du pied droit pour placer sa ballon sous la transversale et s'offrir son second but dans cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Visiblement touché, sonné après son choc face au gardien adverse, le joueur de Liverpool sort. Le Sénégal va finalement marquer le but du break par l'intermédiaire de Bamba. C'est dans les arrêts de jeu. Amédine Sy, Bafoussam, Géorgie.
Les nouvelles sont rassurantes pour l'attaquant des Lions du Sénégal, Sadio Mané, victime d'un choc au crâne dans un duel aérien avec le gardien du Cap-Vert. Sadio Mané a dû quitter ses coéquipiers pour l'hôpital, d'où il est ressorti sans danger. Au chapitre des réactions, écoutons l'entraîneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé. Après la qualification pour les quarts de finale, il est au micro d'Amédine Sy.
Je crois que ce qu'il faut retenir d'abord, c'est le fait qu'on ait bien démarré ce match-là. L'entame de ce match-là a été très important. C'est ce que nous voulions. On a pu travailler pendant 4-5 jours, récupérer l'ensemble de notre effectif. Et comme j'ai dit aux garçons depuis le début de la semaine, qu'il fallait entamer ce match-là et rentrer dans ce match-là par le bon bout. C'est ce qu'on a fait pendant les 20 premières minutes, c'est ce qu'on a fait pratiquement tout le long de la rencontre. C'est-à-dire pousser cette équipe cavernienne à la faute. C'est ce qu'on a réussi à faire à 10. Ils ont un système défensif, ça a été encore beaucoup plus difficile parce qu'ils ont reculé encore davantage. À 9, ça a été encore plus. Donc, il fallait ça. Et Bamba marque ses deuxième but qui nous dégage. Donc, féliciter vraiment les joueurs par leur détermination, féliciter les joueurs aujourd'hui par la qualité qu'ils ont dû mettre et féliciter les joueurs aussi par rapport aux consignes respectées et surtout le niveau qu'ils ont joué ce match-là.
À Yaoundé, le Maroc a décroché de haute lutte sa place pour les quarts de finale en battant le Malawi 2-1. Surpris à la 7e minute sur un joli lobe par les Malawites, le Maroc a pressé son adversaire retranché dans sa moitié de terrain avant d'inscrire 2, dont une superbe balle arrêtée de Hakimi qui a donné la victoire au Lion de l'Atlas. Deux derniers matchs des huitièmes de finale sont au programme ce mercredi. Le duel des titans entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte sera suivi du match Mali-Guinée équatoriale. Avant ces deux rencontres, la Confédération africaine de football va tenir une importante réunion avec le comité local d'organisation de la CAN à Yaoundé. À l'ordre du jour, la bousculade mortelle de lundi dernier lors du match Cameroun-Comores à l'un des points d'accès au stade de Lembé. Des incidents qui ont fait 8 morts selon le gouvernement. La CAF a décidé de délocaliser tous les matchs qui étaient prévus au stade de Lembé et demande en plus des comptes aux autorités camerounaises au sujet de cet incident. Patrice Motsepe, le président de la CAF, en conférence de presse hier.
I went to see where the people lost their lives.
Je me suis rendu à l'endroit où les gens ont perdu la vie. J'y suis allé ce matin et vous voyez, c'est une grille qui devait être ouverte, car si elle avait été ouverte, les gens l'auraient franchi. Et elle était fermée pour d'inexplicables raisons. Elle était fermée. Si cette grille était ouverte comme elle devait l'être, nous n'aurions pas le problème actuel, ces pertes de vie. Et donc, bien sûr, cela fait partie de ce que nous voulons savoir, qui a fermé cette grille, qui en était responsable.
Le journal de la CAN prend fin. Amédine Si, Emmanuel Junta, VOA.
Merci Emmanuel. Dans le reste de l'actualité, le coup d'état militaire qui a renversé le président Roch Marc Christian Kabore au Burkina Faso continue de susciter des réactions. La CEDEAO a annoncé la tenue d'un sommet extraordinaire dans les prochains jours. Abdourahmane Dia.
La communauté économique des États ouest-africains a fermement condamné le coup d'État militaire, estimant que la démission du président Kabore avait été obtenue sous la menace, l'intimidation et la pression des militaires après 2 de mutinerie. L'organisation G5 Sahel, dont la présidence est actuellement assurée par le Tchad, a de son côté condamné énergiquement cette tentative d'interruption de l'ordre constitutionnel. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a jugé que les coups d'État militaires étaient inacceptables, réclamant aux militaires en Afrique de l'Ouest de défendre leur pays, pas d'attaquer leur gouvernement. Le président français Emmanuel Macron a lui aussi condamné ce coup d'État militaire. D'autres gouvernements se sont joints au concert de condamnation et demandé la libération du président Kabore, comme le Royaume-Uni ou l'Afrique du Sud, qui ont appelé au dialogue et au retour de la démocratie.
En revanche, l'homme d'affaires russe Evgeny Prigogine, réputé proche du président Vladimir Poutine et soupçonné d'être lié au groupe paramilitaire Wagner, a salué hier le putsch au Burkina Faso. Il qualifie son coup d'État de signe d'une nouvelle ère de décolonisation en Afrique. Nanit Talani nous en dit plus.
Tous ces soi-disant coups d'État sont dus au fait que l'Occident essaie de gouverner les États et de supprimer leurs priorités nationales, d'imposer les valeurs étrangères aux Africains, parfois en se moquant clairement d'eux, a déclaré M. Evgeny Prigogine dans un commentaire publié sur un réseau social russe. Pour l'homme d'affaires, il n'est pas surprenant que de nombreux États africains cherchent à se libérer. Saluant le putsch des militaires au Burkina Faso, M. Prigogine a estimé qu'un nouveau mouvement de libération a actuellement lieu en Afrique, ainsi qu'une nouvelle ère de décolonisation. Evgeny Prigogine est accusé de financer la société militaire privée Wagner, dont la présence a été rapportée dans plusieurs pays d'Afrique. Il dément toute connexion avec le groupe Wagner. L'un des représentants des instructeurs russes en Centrafrique, Alexandre Ivanov, a lui aussi loué sur Twitter les poutistes de Ouagadougou, estimant que la France n'avait obtenu aucun succès dans la lutte antiterroriste dans la région. Il s'est dit prêt à former l'armée du Burkina Faso si les autorités burkinabées en faisaient la demande.
En Guinée, un tribunal a condamné hier à la réclusion criminelle à perpétuité 17 personnes accusées d'être impliquées dans des heurts intercommunautaires meurtriers en 2020 à Macenta, dans le sud du pays, selon Maître Salifou Béavogui, un avocat de la défense. Ces hommes, tous en fuite, ont été jugés par contumace. Au moins 11 personnes avaient été tuées et plusieurs blessées dans ces heurts.
Le 5e détachement sénégalais de la mission de la CDAO déployé en Gambie a annoncé que 9 de ses soldats sont portés disparus suite aux affrontements lundi avec des rebelles. Comme nous vous le disions hier, 2 soldats ont également perdu la vie dans ces affrontements. Un rebelle a été tué et 2 autres faits prisonniers de Dakar. Notre correspondant Seydina Abagay.
C'est au sud de la localité de Berriam, en Gambie, que les soldats sénégalais ont essuyé des tirs d'éléments armés supposés appartenir au mouvement des forces démocratiques de la Casamance. 2 militaires sénégalais sont morts dans ces affrontements. La riposte du 5e détachement sénégalais de la mission de la CDAO en Gambie a également fait 1 mort du côté des rebelles et 3 d'entre eux ont été faits prisonniers. Mais dans le même temps, 9 soldats sénégalais ont été portés disparus et seraient détenus comme otages par les rebelles du MFDC. La direction de la communication et des relations publiques des armées a précisé que les opérations étaient en cours pour retrouver les militaires et sécuriser la zone. Pour rappel, le MFDC, mouvement indépendantiste de la Casamance situé au sud du Sénégal, s'active dans la culture du chanvre indien et le trafic illicite de bois pour financer ses actions. Des actions que l'armée sénégalaise a fortement compromises en procédant depuis plusieurs mois au démantèlement de beaucoup de bases rebelles et à des patrouilles de sécurisation qui ont permis d'immobiliser durant les 5 derniers mois 77 camions transportant illégalement du bois en provenance du Sénégal. C'est justement au cours d'une de ces patrouilles que ces violents affrontements ont eu lieu. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
En Éthiopie, les rebelles du Tigré affirment avoir été obligés de reprendre les combats dans la région voisine de l'Afar quelques semaines après un repli dans leur fief qui avait suscité des espoirs de paix.
3 enfants d'une migrante nigériane ont péri au Maroc, asphyxiés puis calcinés lors de l'incendie de leur abri de fortune, installé dans le massif boisé d'Ogourougou, selon l'Association marocaine des droits humains qui dit que la mère avait fait un feu à l'intérieur de l'abri pour réchauffer ses petits.
Les États-Unis ont détaillé ce mardi les sanctions que pourraient subir la Russie et Vladimir Poutine lui-même en cas d'invasion de l'Ukraine. Pour sa part, Moscou a lancé des manœuvres militaires tout près de l'Ukraine. Le point avec Mohamed Houmfa.
Les États-Unis envisagent, selon un haut responsable de la Maison-Blanche, d'interdire l'exportation vers la Russie de la technologie américaine. De quoi porter, selon lui, un coup dur aux ambitions de Vladimir Poutine d'industrialiser son économie dans les domaines tels que l'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques, la défense, l'aérospatiale et d'autres secteurs. Le président Joe Biden a déjà fait savoir qu'il envisageait d'asphyxier les banques russes en leur interdisant les transactions en dollars, la devise reine des échanges internationaux. Les forces armées russes ont lancé mardi une nouvelle série de manœuvres à proximité de l'Ukraine et en Crimée. La Russie dément tout projet d'invasion, mais lie une désescalade à des garanties sur le non-élargissement de l'OTAN à l'Ukraine. Le président français Emmanuel Macron a dit vouloir proposer un chemin de désescalade à Vladimir Poutine et le Kremlin a confirmé un entretien dans la semaine.
Le président Joe Biden a précisé hier qu'il n'avait pas l'intention d'envoyer des troupes américaines ou de l'OTAN en Ukraine, tout en estimant qu'une invasion russe aurait d'énormes conséquences et changerait le monde.
Le niveau de risque lié au variant Omicron, toujours dominant dans le monde, reste très élevé, a averti hier l'OMS dans son bulletin hebdomadaire. Plus de 21 millions de nouveaux cas ont été enregistrés ces 7 derniers jours, ce qui représente le plus grand nombre de cas hebdomadaires recensés depuis le début de la pandémie, a déclaré l'OMS, qui a également fait état de 50 000 nouveaux décès, un chiffre stable par rapport à la semaine dernière.
De ventes majeures d'équipements militaires à destination du Caire concernant du transport aérien des systèmes de radar ont été approuvées hier par le département d'État américain. A noter que de plus en plus de voix s'élèvent à Washington contre le traitement des opposants politiques par le gouvernement du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seboudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, au lendemain de la prise du pouvoir par un groupe de militaires regroupés au sein du MPSR, le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration, plusieurs centaines de jeunes sont descendus mardi dans les rues de Ouagadougou, la capitale, pour soutenir la junte. Beaucoup espérant que les militaires vont arriver à bout de l'insécurité qui mine ce pays depuis 7 ans. Reportage de notre correspondant sur place, Lamine Traoré.
Sur la place de la Nation à Ouagadougou, réunis en petits groupes, des centaines de manifestants sont venus pour soutenir la junte qui a pris le pouvoir.
Voilà, on est très contents. Maintenant, là, les armées burkinabées ont pris le pouvoir, ça nous plaît beaucoup. Inch'Allah, le pays va être en paix maintenant, ça on est sûr de certains, et il n'y aura pas de problème comme ce qui a passé. Voilà, c'est ce qu'on a prié bien Dieu depuis fort longtemps. Voilà ce que les résidents s'étaient fait hier. Nous tous, tous les Burkinabés sont très contents pour le coup d'État.
Aujourd'hui, nous avons décidé de sortir sur ce terrain parce que nous savons que l'avenir de ce pays appartient surtout à la jeunesse. Et aujourd'hui, cette jeunesse n'a plus d'avenir à cause des multiples injustices. L'injustice appliquée à la jeunesse par une partie des dirigeants de ce pays a poussé ces jeunes à sortir d'ici.
Non, je suis décidé de sortir pour soutenir les militaires. Parce qu'ils ont fait un bon boulot depuis 6 ans, en train de souffrir. Nos mamans, mais nos femmes aussi, il y a trop de souffrance dans le pays.
Depuis 2015, le pays vit une situation sécuritaire précaire. Les revendications des populations restent nombreuses et le public attend beaucoup de la junte au pouvoir.
L'armée n'a qu'à prendre les choses en sérieux. Voilà, l'armée, tout le peuple sont derrière l'armée. Donc il n'y a pas erreur. Maintenant, il n'y a pas erreur. Il n'a qu'à prendre les choses en sérieux. Maintenant, on ne veut plus ce qui a passé.
Nous, nous demandons aux nouvelles autorités d'appliquer rien que la justice. La justice est rien que la justice que nous voulons. Ceux-là qui ont tué ce pays, ces fonctionnaires qui ont écrit des textes pour tuer ce pays, on n'a qu'à les écarter et mettre de nouvelles têtes de la jeunesse étudiantine actuellement en place pour un nouveau départ de ce pays.
Et voici l'avis de Arnaud Francis Kinané, un militaire a dit en 2011.
C'est des jeunes officiers que nous connaissons très bien, parce que nous sommes des militaires. Donc nous avons foi en eux que le Burkina va avoir en tout cas une bonne gouvernance. Voilà, donc ce que nous avons à leur dire seulement, c'est de débuter avec une réconciliation urgente, une réconciliation générale de toute la nation. Faire revenir les exilés afin que nous parlons le même langage.
Dans une lettre manuscrite publiée lundi nuit par la télévision nationale, le président Kabore a indiqué déposer sa démission dans l'intérêt supérieur de la nation suite aux événements qui s'y déroulent depuis dimanche. La lettre est signée de la main de Roch Kabore, le désormais ancien président du Faso. Le MPSR, le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration, a annoncé la réouverture des frontières aériennes. À compter de ce mardi, les frontières terrestres restent elles toujours fermées. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Ce coup d'État a donc reçu l'approbation populaire de manifestants qui sont sortis dans certaines villes pour apporter leur soutien à la junte. D'après Ouezin Louis Houlon, journaliste et analyste politique, les militaires au pouvoir pourraient surfer sur cette confiance interne pour atténuer les condamnations extérieures du putsch. Yacouba Ouédraogo a joint à Ouagadougou notre confrère.
Comparé à 2015, où le coup d'État du général Désiré avait été désapprouvé publiquement, on peut dire que le coup d'État de 2022 a été accepté. A été accepté par une opinion, pas qu'ils ont une autre perception de la démocratie, mais c'est dû à un certain nombre de paramètres liés à la sécurité personnelle et collective des Burkinabés, qui n'ont jamais été aussi inquiétés, menacés et impuissants devant une incapacité de l'autorité à assurer le minimum vital en termes de sécurité personnelle. Donc, face à cet échec du système caboré, toute offre fut-elle militaire et même militaire, parce que c'est ce qu'ils recherchent, apparaît à leurs yeux comme étant de prime abord la solution.
Les militaires parlent de restaurer, de sauvegarder l'intégrité du territoire déjà entamé par les terroristes. Qu'est-ce qu'il pourrait faire différemment de ce que le régime Roch Kabore faisait?
C'est toute la question et c'est toute l'inconnu de cette aventure dans laquelle on est tous engagés. Mais de prime abord, on va dire que c'est une génération de jeunes officiers qui avaient montré un certain attachement à la patrie en disant non au coup d'état du général Dinguéré. C'est une génération de valeureux officiers dont la confiance du chef de l'État a été confirmée en décembre dernier, qui devrait leur donner un minimum de confiance. L'opinion lui donne un blanc-seing, mais il faudrait dire que les réalités du terrain sont telles qu'il faut un peu attendre de les voir à l'œuvre. À l'est, au nord, au Sahel et même à l'ouest, on peut dire que pratiquement le quart du territoire est infecté par des groupes terroristes. Donc leur esprit de restaurer est un esprit intéressant, mais est-ce qu'ils ne sont pas arrivés tard? On se demande si réellement ils pourront d'abord procéder, on va dire, le plus urgent à une limitation de l'avancement du front terroriste, et ensuite procéder à une libération du territoire.
On le sait, la condamnation de principe de la part de la communauté internationale, la France, les États-Unis, la CEDEAO, est tombée. Il faudrait peut-être s'attendre à des sanctions éventuelles de la CEDEAO. Est-ce que le Burkina pourrait tenir en cas de sanction?
Je pense que le Burkina ne tenait pas déjà avec Roch Kabore. Et quand vous regardez la vitesse de progression des groupes armés, je pense que la CEDEAO, la France, les États-Unis devraient faire quelque chose à l'époque pour éviter que les groupes terroristes qui étaient un peu loin de Ouagadougou il y a 12 mois et qui sont à une centaine de kilomètres de Ouagadougou ne puissent pas arriver. Donc, la chef a cela comme argument. Je pense que la CEDEAO, elle peut continuer à condamner, mais il va falloir qu'elle regarde. Mais même quand vous regardez la littérature qui a été produite par toutes ces organisations, je pense que le coup d'État est consommé. Et je ne vois pas quelqu'un qui dit qu'il faut ramener l'Europe au pouvoir.
Cousin Louis Houlon, journaliste et analyste politique, joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Plusieurs semaines après les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, on continue d'enregistrer des réactions dans les pays voisins, notamment au Niger. Ces sanctions ne passent pas et des soutiens au peuple malien se manifestent. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Au sein de l'opinion nigérienne, la situation du Mali préoccupe beaucoup et les conséquences des sanctions prises par la CEDEAO contre le voisin sont ressenties dans plusieurs secteurs, notamment le transport et l'économie. C'est pour cela d'ailleurs que le Niger doit soutenir le Mali, estime l'acteur de la société civile Nuhu Mahamadou Arzika.
Le peuple nigérien, comme les peuples de tous les pays de la CEDEAO, doivent soutenir le peuple malien. Nous devons soutenir le peuple malien, accompagner le peuple malien, désavouer ces chefs d'État pantins qui sont partis de manière illégale prendre des décisions qui sont des décisions illégales, contestables, critiquables, dénonçables, condamnables. Et c'est pour ça que nous considérons que l'espoir est permis. Quoi qu'ils disent, heureusement, l'Algérie est favorable. L'Algérie qui est un pays qui sait c'est quoi l'indépendance, qui sait c'est quoi la dignité, qui sait c'est quoi l'honneur. l'Algérie a dit clairement sa position par rapport. De façon totalement ridicule, vous les avez entendus. Utiliser l'idée qu'on va mobiliser la force en attente, doit-il porter la guerre au Mali? Alors on va voir le pays qui sera le premier acteur de là pour porter la guerre au Mali. Nous tous ici là, on va s'armer pour aller au Mali et faire la guerre contre tous ces gens-là. De l'intérieur même de nos pays, on fera cette guerre-là pour sauver le Mali.
Pour Maman Hamissou, acteur politique, les décisions de la CEDEAO produisent sur le terrain un effet totalement contraire.
Ces chefs d'État, ils ont renforcé les militaires. Ils ont vraiment renforcé les militaires et ils ont réveillé ce qu'on peut dire le panafricanisme. Personne n'est resté indifférent à ces décisions-là, qui sont des décisions criminelles. Nous réitérons notre soutien au peuple malien et nous demandons à la junte d'aller plus loin. Et je pense que cette résistance malienne, elle va libérer enfin peut-être l'Afrique.
Sidi Bey Soufou, ancien leader syndical, trouve pour sa part que la CEDEAO est dans son rôle. Il demande aux citoyens nigériens qui critiquent l'organisation sous-régionale de se souvenir de l'histoire des luttes démocratiques du Niger.
Au fait, nous sommes dans quel camp, les Nigériens? Tout démocrate que nous réclamons. N'oublions pas que le Mali, d'abord, il s'agit de putschistes. Les Nigériens doivent se ressaisir. Parce que depuis une dizaine d'années, un peu plus, nous avons démontré à la face du monde que nous sommes un pays démocratique et notre attachement à la démocratie et à la bonne gouvernance est sans embâche.
Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, la phase de répression est entrée dans sa phase active. Dans le secteur de la santé, une dizaine d'agents ont été relevés de leurs fonctions, les uns pour malversation et fraude, d'autres pour non-application des mesures sanitaires. Ces sanctions disciplinaires ont été annoncées par le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Les détails avec notre correspondante à Abidjan, Delphine Boise.
De simples avertissements à la révocation d'une dizaine d'agents de santé. Ce sont là les premières mesures disciplinaires issues des conclusions de l'enquête diligentée au cours de la période d'octobre à novembre 2021 dans sept établissements sanitaires d'Abidjan par les vérificateurs du ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Mathurin Goulibi-Irdié, l'inspecteur général du ministère.
Il s'agit des agents de la santé qui n'ont pas appliqué les mesures sanitaires telles que exigées et que nos vérificateurs sont allés sur le terrain et ils ont constaté des cas de fraude.
Des sanctions ont été prises à l'encontre de ces agents, mais quels sont les faits de corruption dont ils sont coupables? Élément de réponse avec l'inspecteur général du ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.
Il y a certains qui sont relevés de leurs fonctions. Un directeur, par exemple, d'Abobo, a été relevé de ses fonctions parce que sous sa responsabilité, il y a eu des défaillances. Donc, nous l'avons accusé directement. Et dans certains services, lorsqu'il y a eu des malversations, des fraudes, nous avons relevé ces directeurs-là de services de leurs fonctions. Nous avons aussi fait des suspensions. Il y a certains docteurs, quand les malades vont dans les hôpitaux où il y a tous les services, qui ont détourné des patients vers des cliniques privées, là où ils perçoivent encore des perdièmes.
Le ministère ne compte pas ça. Arrêté en si bon chemin, indique l'inspecteur général Mathurin Goulibi-Irié.
Il y a une dizaine de personnes pour l'instant qui sont condamnées, d'autres sont en cours, nous sommes en train de faire des vérifications.
Et que pensent les Ivoiriens de ces mesures disciplinaires?
Vraiment, l'État peut vraiment s'occuper de ça, ça nous fera plaisir. Est-ce que ça peut continuer aussi? En tout cas, moi, je suis ravi de ça. Après, c'est très bon. Pas souvent, l'État parle de ça et puis après, bon, il laisse. Comment, en haut, est corrompu. Après, c'est la vérité.
Au dire de l'inspecteur général du ministère, l'opération de vérification d'allégations se poursuivra dans les secteurs publics et un calendrier annuel a déjà été établi dans ce sens. Pour rappel, la lutte contre la corruption a été déclarée priorité nationale pour cette année 2022 par le président ivoirien Alassane Ouattara. Ouattara lors de son message de fin d'année à la nation. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Sebudia et Eric Manirakiza, à la mise en onde Lionel Gahima, à la console Calvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute.